6h. Bonjour à toutes et à tous. Les petits matins commencent. C'est parti. Et il commence avec les premiers titres de cette journée avec vous, Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. L'Europe et le Canada veulent y croire encore. Le sommet pour signer le CETA, l'accord de libre-échange, sommet prévu jeudi à Bruxelles, est toujours possible, assure le président du Conseil européen, Donald Tusk, dans un tweet hier soir. Et pourtant la Belgique a dit non. Le premier ministre belge Charles Michel a annoncé dans l'après-midi hier que son pays n'était pas en mesure de ratifier l'accord à cause du veto du Parlement régional de Wallonie. Le président de l'Assemblée wallonne a de son côté réclamer davantage de temps pour étudier le texte de 1600 pages. En Europe encore, le pouvoir polonais n'avait pas dit son dernier mot. Il souhaite toujours limiter l'accès à l'avortement dans le pays, même, je cite, quand l'enfant est condamné à mort afin qu'il puisse être baptisé. Hier, des milliers de Polonaises ont de nouveau manifesté dans plusieurs villes du pays, vêtues de noir et portant des parapluies pour défendre l'accès à l'IVG. Elles ont notamment dénoncé l'ingérence de l'Église catholique dans la politique et le chantage qu'elle exerce sur les partis. Les Islandais, elles ont arrêté de travailler hier à 14h38. Pourquoi 14h38, me direz-vous? Parce qu'en comparaison avec les hommes, après cette heure précise, elles travaillent sans être payées. Un moyen de dénoncer les écarts de salaire qui se réduisent quand même sur l'île, mais doucement. En 1975, elles avaient quitté le travail à 14h08. Il y a 6 ans, c'était à 14h25. À ce rythme, les Islandaises devront attendre 2068 pour atteindre l'égalité parfaite. L'actualité ce matin, c'est aussi le démantèlement de la jungle de Calais. Lors de la première journée de l'opération hier, en tout, plus de 2300 étrangers ont été sortis du bidonville et emmenés dans des centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France. Opération dans le calme et la maîtrise, s'est félicité le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Elle va se poursuivre jusqu'à ce que les 6 à 8000 candidats à l'exil aient été pris en charge. Et puis le conflit social se poursuit sur la chaîne iTélé. La direction a suspendu hier l'émission de Jean-Marc Morandini, mise en examen pour corruption de mineurs et dont l'arrivée à l'antenne a provoqué la colère de la rédaction. Il y a une semaine, mais ce n'est qu'une suspension temporaire de l'émission, le temps de la grève, manière pour la direction et pour l'actionnaire principal Vincent Bolloré d'imposer une fin de non-recevoir aux grévistes.
Merci Amélie, on vous retrouve tout à l'heure de 6h30 à 6h38 pour le journal de la rédaction.
Et islandaise, presque. Ouais, presque à l'islandaise, exactement, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Il résiste parfois comme une lueur dans la nuit, impossible de savoir d'où elle peut venir, mais la clairvoyance se fait et on peut dire sans trop de questions autour que la lumière peut et doit venir de nous. Il est 6h03 sur France Culture et les petits matins s'ouvrent devant nous. Il y a les images que l'on voit et d'autres que l'on se crée nous-mêmes et qui finissent par s'installer durablement dans notre tête avant que l'on décide un jour de les bousculer, de les déloger. On part des couloirs d'un lycée à Saint-Denis, le lycée Paul-Éluard. Une voix métallique s'imprime sur le mouvement d'un jeune homme qui marche de dos. La voix qui semble presque sortie d'un poste de radio parle du baromètre de l'expression de la diversité mis au point par le CSA. 37% des gens vus comme non-blancs, poursuit cette voix off, sont décrites dans des situations illégales ou marginale. À la fin de ce constat, l'adolescent ouvre une porte sur l'extérieur. C'est l'histoire d'une classe de première à Saint-Denis et de l'image que ces lycéens ont d'eux-mêmes, les questions qu'ils se posent à eux, sur eux et sur les autres. L'un d'eux, toujours de dos face à une fenêtre, trouve ça dur de changer ce qu'il appelle la mentalité des gens. Tout le monde est persuadé que les jeunes d'ici sont hors la loi, dit-il. C'est un film réalisé sur 3 années scolaires dans la classe du professeur Jean-Pierre Aurière, un professeur d'histoire et de géographie qui, après les émeutes de 2005 dans les banlieues, s'est demandé comment faire pour vivre ensemble. Il emmène chaque année ses élèves dans des pays lointains, à la rencontre d'autres sociétés qui ont réussi à se reconstruire après le conflit. Avec toutes les questions que ces reconstructions supposent, le réalisateur Juan Davila a suivi 3 voyages à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie et au Chili. Son film, Au bout de la route, cherche à 7h un diffuseur. 3 épisodes où les jeunes lycéens de Saint-Denis se retrouvent au centre de l'attention dans leur pays d'accueil. Dans les images que l'on peut voir de ce travail, on retrouve ces lycéens au regard un peu perdu, au corps désemparé. Ils restent ensemble, un peu collés, à regarder tout autour d'eux, comme pour essayer de se trouver sur cette aire complètement inconnue des repères communs. L'une d'eux, longs cheveux noirs, regard noir incrédule, ne peut retenir ses larmes quand, à Madagascar, elle rencontre des enfants qui dansent pour elle et le reste de la classe en guise de bienvenue dans leur école. Ils ont dansé pour nous, ils sont là pour nous, alors qu'on n'est rien, on n'est personne. Ce sont ces rien ni personne dont il doit être question dans le noir, des rien ni personne qui s'éveillent et se réveillent sous un autre jour, celui du bout de la route que nous faisons nous aussi chaque jour ensemble. À 6h26, les émois de François Angelier nous emmèneront aussi sur la route d'une rencontre, celle du garçon, héros du roman éponyme de Marcus Malte, avec les habitants d'un petit hameau perdu du sud de la France. Mais avant cela, on reste encore un peu dans le noir. Dans les petits matins, c'est la couleur de la scène et des décors de la dernière création en date de Bartabas. On achève bien Les Anges au fort d'Aubervilliers. L'artiste à cheval qui se retrouve aussi au centre d'une exposition du peintre Emmanuel Michel. Et ils sont tous les deux jusqu'à 6h25, les invités de Toufik Hakem dans le Passo Doble des petits matins sur France Culture.
Passo Doble.
Passo Doble.
Mardi, Expo.
Home sweet home, vous voilà de retour chez vous, Bartabas. C'est-à-dire au fort d'Aubervilliers. Après la tournée, la grande tournée, vous revenez avec votre dernière création, On achève bien les anges, donc au théâtre Zingaro à Aubervilliers, et vous jouez jusqu'au 31 décembre inclus. Mais cette fois-ci, en allant vous voir, on peut admirer une exposition qui a été faite autour de vous et de votre travail. Ça, c'est nouveau chez vous, Bartabas, hein. Vous acceptez de jouer dans des films, vous revenez jouer dans vos spectacles.
Je ne joue pas dans les films, je permets à Alain Cavalier, qui pour moi est un des plus grands cinéastes français, de pénétrer mon univers et d'y faire son propre film, c'est pas pareil.
Mais les dernières années, comme on ne vous voyait pas dans vos spectacles, on s'est dit, tiens, il préfère peut-être rester à l'ombre. Là, ça
Non, je fais des expériences sur scène. J'ai joué au Théâtre du Rond-Point pendant un mois, Golgotha, et puis Santorin l'Animal. Mais j'avais besoin de faire un peu des rencontres, un peu, j'allais dire, extra Zingaro, entre guillemets, tout en continuant la compagnie, évidemment. Mais là, c'est une expérience un peu intéressante parce que c'est un livre et une exposition autour de mon travail, mais plutôt au niveau de la vie de Zingaro, quoi. Mmh. Moi, j'aime beaucoup le regard des autres sur notre vie, hein, parce que Zingaro, c'est plus que des spectacles, c'est quand même un mode de vie, ce qui est très particulier, et que les spectateurs ne voient pas tous les jours, parce que les spectateurs voient, je dis toujours, le spectacle, c'est la partie immergée de l'iceberg, quoi, donc ils voient ce qui sort de l'eau, mais la grosse partie sous l'eau, c'est ce qu'on vit tous les jours, aussi bien avec nos chevaux qu'entre nous, que la vie de la compagnie, hein, puisque l'originalité de Zingaro, c'est qu'on vit sur notre lieu de travail tout le temps, hein, même en tournée. Hein,
tout le temps.
On est en caravane, donc...
Toujours en mouvement.
Toujours en mouvement, et même quand on se déplace avec nos caravanes, tout ça pour rester à côté de nos chevaux, en fait. Hein. Un peu comme les paysans à l'époque avaient besoin de vivre à côté de leurs animaux pour les surveiller 24 heures sur 24, parce que les chevaux, c'est un peu comme des enfants, quoi. Hein. Donc, faut s'en occuper tout le temps. Et donc, on peut pas les mettre au garage et dire, tiens, je pars 15 jours, je reviens, non. Donc, ça fait un peu partie. Ça a donné une philosophie de vie qu'on pourrait expliquer un peu de. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de frontière, peut-être, entre l'acte artistique et la vie quotidienne et la vie sociale, j'allais dire. Même si ce n'est pas une communauté. C'est-à-dire qu'on mange rarement ensemble. Moi, j'aime pas trop faire des réunions. Je dirais plutôt que c'est comme un village. Et c'est ça que je voulais qu'Emmanuel Michel arrive à capter, parce que son travail... Je lui avais dit, en fait, viens à Zingaro comme tu serais dans un village à Ouagadougou ou à Cuba quand tu vas, parce que c'est un grand voyageur, donc il a l'habitude d'aller choper comme ça des choses dans des petites villes, dans des endroits un peu exotiques entre guillemets. Et j'ai dit, bah, considère Zingaro comme un village un peu exotique, t'occupe pas du fait qu'on fait du spectacle, non, viens voir comment vivent les gens. Et voilà, parce que c'est vrai que le Zingaro, on est dans le 9-3 au fort d'Aubervilliers, comme depuis 25 ans, là. Ça a beaucoup bougé autour de nous, quoi. Et nous, on est un peu comme un village d'Astérix, sauf que personne n'est gaulois chez nous. Enfin, ça, voilà. Donc ça, ça m'intéressait, ce côté-là, qu'ils viennent capter cette ambiance, quoi. Et je pense que c'est très, très réussi, ça, parce qu'il est très fort pour choper comme ça des silhouettes, des ambiances dans leur décor. Faut savoir qu'on vit avec nos caravanes, et à Aubervilliers, chacun s'est un peu construit des petites maisons à trois murs. J'appelle ça des petites maisons à trois murs, parce que c'est la caravane qui vient faire le quatrième mur, quoi. Et ça donnait comme ça des petites constructions qui se sont développées comme une sorte de petite favela un peu, quoi, autour du théâtre. Mais tout ça en symbiose avec les chevaux, quoi. C'est-à-dire
qui est bien dans le travail d'Emmanuel Michel et dans cette exposition qui nous accueille à l'entrée du théâtre du fort d'Aubervilliers, Bartabas, c'est qu'il a choisi, il a isolé des moments. C'est-à-dire, vous qui êtes tout le temps en mouvement, on peut voir moment par moment, à quoi peut ressembler la vie. Et si vous voulez bien, Bartabas, on va faire un petit tour de l'exposition compagnie de la galeriste d'Emmanuel Michel, Bénédicte Gignoux.
Depuis longtemps, Bartabas voyait des travaux et des tableaux et des sculptures d'Emmanuel Michel. Il a d'ailleurs une de ses sculptures dans sa caravane depuis très longtemps. Et donc moi j'ai proposé, quand il démarrait la création en novembre 2014, que Emmanuel Michel vienne découvrir Zingaro. Bartabas a accepté, on ne savait pas du tout ce qui allait en sortir, mais au bout de quelques mois le livre s'est imposé et Emmanuel a travaillé de façon très intensive pendant un an et demi sur ce projet. Alors Emmanuel Michel aime énormément la matière, il y a beaucoup de matière. Vous pourrez voir sur certains tableaux, même il rajoute quelquefois du sable, de la paille. Et les couleurs sont vives, sont aux couleurs éclatantes de la vie de Zingaro, évidemment.
Donc c'est la vie restituée en tableau, en dessin, en croquis. C'est exposé à l'entrée du chapiteau et cette exposition va durer jusqu'à la fin du spectacle.
Exactement, jusqu'à la fin du spectacle. Ce qui est très fort dans le travail d'Emmanuel Michel, c'est la manière dont il capte les postures des gens, les attitudes, la concentration des uns et des autres. Rien que la courbure du dos, on reconnaît dans quel état est l'individu qui va rentrer en piste. On ressent sa concentration, les expressions du visage. Il est très 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 fort dans les expressions de visage. Là, c'est une huile sur cuivre, et ça, Emmanuel Michel aime beaucoup travailler sur cuivre, et c'est un ange qui vole, c'est Nordine qui est en... C'est un instant extraordinaire du spectacle, ça, vous verrez ça tout à l'heure.
Quelle est l'histoire et le parcours d'Emmanuel Michel ?
Il a fait une école de restauration de tableaux, et il est parti en Égypte pour une restauration. Et puis, quand il est revenu, il avait déjà des carnets de croquis là-bas. Et quand il est revenu, il a commencé ses premières toiles et il les a présentées. Et en fait, il est reparti un an après. Il est devenu artiste voyageur sans même l'avoir prémédité. Et c'est une grande passion. Il aime les gens. C'est un homme très très humain, très très à l'écoute, très humble, et il aime les gens, il aime la peinture, il aime la sculpture, il aime sa vie, il aime il croque la vie.
Il aime les chevaux ?
Oui, il aime les chevaux, bien sûr, il est cavalier. Oui, oui. Cavalier, il a été en Mongolie, il a beaucoup monté en Mongolie. Ici, là, on est devant un tableau avec beaucoup, beaucoup de matière. Hein. C'est de la paille, donc c'est des techniques de liant. Et ça donne des effets de matière et de lumière formidables. Il sait capter, même regarder ce cheval là qui est en train de regarder par sa fenêtre, il est extrêmement vivant.
Et quelle est la toile préférée de Bartabas, par exemple ?
Il ne me l'a pas dit, mais il est extrêmement heureux de ce travail.
Merci Bénédicte Gignoux.
Merci à vous.
Ouais, bah alors, puisque vous ne dites rien à votre équipe, et bah, je vais vous poser la question, Bartabas, de toutes les toiles d'Emmanuel Michel, laquelle vous préférez ?
Oh, bah, il y en a beaucoup. Dans les croquis, il y a un petit croquis que j'adore, qui est mon assistante, Anne Perron, de dos, parce qu'elle est dans une attitude très, qui est comme quelque chose de à peine ébauché, dans une attitude très caractéristique d'elle, quoi. On la reconnaît plus de dos, j'allais dire, que des portraits de face, quoi. Ça, c'est très fort chez lui. C'est un petit croquis comme ça, très léger. Et puis, il y en a pas mal. Il y a une espèce d'huile qu'il a fait sur une toile de, c'est la mule et l'âne montée par Polo et William, là, qui sont comme ça sur une espèce de grande toile
De bâche, là,
ou? Oui, de bâche, de, où il y a différentes figures derrière. Enfin, c'est assez. Il y en a beaucoup que j'aime bien, mais j'aime pas choisir là-dedans. J'aime bien. C'est un travail qui est très fouillé jusqu'aux petits détails. Donc des fois, il peut y avoir une main, un détail qui est très touchant, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait venir dans la période où c'est les 6 mois de création. En fait, il a assisté aux 6 mois de création d'un spectacle. Donc c'est un moment assez intense, quoi. Hein, parce que pendant 6 mois, ça, c'est en même temps long, c'est un marathon jusqu'à la première, quoi. Et en même temps, ça chôme pas, et donc c'est des périodes assez difficiles parce que on passe de joie extrême à la déprime totale. Voilà, comme tout, comme à chaque création, quoi. Donc il y a toujours, c'est assez fort au niveau humain, quoi. Hein. C'est-à-dire que donc il a eu toute une palette de d'émotions, d'attitudes, de tranches de vie, j'allais dire. Donc c'est souvent les j'aime bien travailler sur les récits, les deuxièmes niveaux, et notamment la peinture, qui pour moi est une forme d'expression qui me passionne, parce que comme avec le travail des chevaux, c'est un art qui est très confronté à la contrainte. Surtout dans le temps, la peinture. Moins maintenant, parce que maintenant on a un peu éclaté le format, les matières. Mais à l'époque, la peinture à l'huile, c'était des contraintes énormes, quoi. Pour faire une retouche, il fallait bien réfléchir à ce qu'on allait faire. Et travailler avec les chevaux, c'est pareil. C'est entre l'imaginaire, ce que tu as envie de faire, et la réalité, la contrainte de ce que te dictent les chevaux, il y a un monde, quoi. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. Après, des rencontres, oui, bien sûr. Bah, j'adore Ernest Pignot-Ernest, qui pour moi, bon, c'est plus qu'un ami, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, non seulement de par son œuvre, mais de par sa démarche, quoi. Et moi, je suis très attaché à ça. La démarche de Zingaro est un peu à part dans le monde du théâtre, dans le monde de l'institution culturelle, j'allais dire même. Et lui, il est comme moi, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même un gars qui, pendant des années, a collé ses originaux dans la rue, quoi. Il ne vivait que de la vente de ses esquisses, quoi. Donc ça, c'est quand même très courageux. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans sa démarche par rapport au milieu de la peinture, voilà, qui me plaît pas beaucoup, évidemment, de l'exploitation qui en est fait, quoi. Après, si je me souviens d'une rencontre assez importante pour moi avec Soulages, à l'époque où je travaillais sur Eclipse, où tout d'un coup, moi, j'étais un peu intimidé, je voulais parler de lumière, de noir, parce que mon spectacle était autour du noir et blanc et de la lumière. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était comme moi, qu'on travaillait beaucoup sur la matière, quoi. Lui ne m'a parlé que de ses râteaux, de ses pinceaux, comment il pourrait arriver à avoir telle épaisseur. Enfin, c'est pas du tout intellectuel, je veux dire.
Artisan, artiste.
Voilà. Et ça, là-dessus, on s'est beaucoup retrouvé, quoi. Souvent, on a une image de l'artiste qui est très intellectuel. On se dit, alors qu'en fait, on est confronté, comme tous, à des problèmes très techniques, très, voilà. Alors, avec les chevaux, c'est pareil, quoi.
Alors, on a appris dans ce petit reportage que vous aviez une sculpture d'Emmanuel Michel. Est-ce que vous avez d'autres toiles chez vous, Bartabas?
J'en ai, mais très peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. L'intérêt de vivre en caravane, c'est qu'on est obligé de faire un choix. On ne peut pas accumuler de possessions.
C'est d'autant plus intéressant. Donc, quel choix avez-vous fait?
Bon, c'est pas des choix, c'est souvent des choses qu'on m'a données, en fait. C'est plus des œuvres ou des petits bouts de choses qui sont attachés à des souvenirs, quoi. J'ai un petit dessin de Cabu, voilà, qui m'a crayonné un soir après le spectacle dans le restaurant, voilà, que j'ai mis, par exemple. Voilà, ce qui est pas assez, pour moi, ça représente plus un souvenir que l'œuvre elle-même, quoi. Et voilà, c'est pareil, j'ai une toute petite gravure de Géricault, qui est derrière mon grand-père, que j'ai arrivé à garder, qui est toute petite comme ça, qui est une esquisse. C'est des choses qui font 5 cm sur 10. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de murs dans une caravane, comme vous le savez sans doute.
Donc. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique à nous faire partager ce matin, Bartabas?
Plus qu'une musique, j'ai choisi un chanteur, Wisowski, qui pour moi c'était une grande figure. C'était un grand acteur du Katanka, qui était le théâtre soviétique à l'époque à Moscou, qui était un grand libérateur, si on pourrait appeler ça comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui tous ses concerts étaient musicien et chanteur. Tous ses concerts se faisaient comme ça, un peu en dessous. La vente de disques était interdite, hein, l'Union soviétique. Et voilà, pour moi, c'était un grand résistant, quoi. Et puis, voilà, c'est une voix, c'est une personnalité, une voix. Voilà. Je l'avais mis dans mon film Chaman, un long métrage que j'avais fait en Sibérie.
Et on écoute ça ce matin.
Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай! Как я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Однажды я уехал в Магадан. Я от себя бежал, как от чахотки. Я сразу там напился в Трабадан водки. Но я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. За мной летели слухи по следам. Опережая самолеты в югу, я все-таки уехал в Магадан к другу. И я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я повода врагам своим не дал, не взрезал вены, не порвал аорту. Я взял-то, как уехал в Магадан, к черту. Я увидел Ногайскую бухту до тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я, правда, здесь оставил много там. Писали мне все ваши дамы биты. Ну что ж, а я уехал в Магадан к Виты. И я видел Ногайскую бухту до тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Когда подходит дело к холодам, где-то далеко да и накладно, могу ехать к другу в Магадан. Ладно! Ты не видел Ногайской бухты, дурак ты! Улетел я туда не с бухты, барах ты!
Quelle énergie!
Хоски, qui était connu en France comme le compagnon de Marina Vladi aussi beaucoup. Voilà, mais c'était un personnage, quelqu'un qui a été... Enfin, moi, je suis très sensible à ça, parce que c'est quelqu'un qui a résisté à sa manière. Quand même. Et j'aime bien les gens qui ont des parcours comme ça, un peu parallèles, qui avaient du succès en tant que comédien. C'était un comédien très connu, assez célèbre, hein, et qui, en tant que chanteur, était un vrai résistant. Quoi. Le jour de sa mort, l'Union soviétique a caché le jour de sa mort, parce qu'il craignait des... Et en fait, il y a eu des millions... Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était il y a un petit bout de temps. Il y avait des millions de gens dans la rue, quoi, à Moscou. C'était assez, paraît-il, assez impressionnant. J'ai pas connu, évidemment.
Barthabas, comment vous faites pour choisir les musiques de vos spectacles?
Oh là là, c'est un parcours compliqué parce que c'est... La musique, pour moi, est une des premières sources d'inspiration. Hein, donc elle est très... Je dis souvent, tout d'un coup, j'en éprouve un besoin. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai fait Lungta avec des moines tibétains et j'ai été chercher au fin fond de l'Himalaya, je connaissais ces voix du monastère de Guto depuis des années, mais jamais j'aurais imaginé que je ferais un spectacle un jour. Et puis tout d'un coup, c'est devenu une évidence, comme un besoin intérieur, quoi. Donc moi, je crois beaucoup à ça. J'écoute beaucoup de musique, et beaucoup de musique ancienne, beaucoup de musique de tradition orale, parce que moi, je crois, pareil, mon art est un art de tradition orale, s'il ne s'écrit pas, quoi.
Non, mais la musique, elle vient après, j'allais dire, le spectacle, non. Le numéro monté.
Elle vient avant.
Avant, toujours avant.
Souvent avant, parce que pour une raison déjà très simple, c'est que la compagnie est ce qu'elle est. C'est un groupe de gens, donc souvent avec des gens qui travaillent depuis plus de 20 ans, les chevaux aussi. Et les musiciens sont toujours invités pour une création à l'intérieur de la compagnie. Donc ils vont partager 3 ans de vie de Zingaro. Donc il faut, pour des raisons simplement pratiques, que j'aille les voir. J'ai toujours mis un point d'honneur à les rencontrer les yeux dans les yeux, même au fin fond du désert, avant de les lancer dans cette aventure, quoi. Donc il faut aller les voir, les rencontrer. Et après, il y a tous les papiers à faire, les autorisations. Donc c'est pratiquement un an avant même le début des représentations que je suis obligé des répétitions. Je suis obligé de faire un choix déjà, au moins. Après, bon, voilà, ce choix est fait de manière un peu sensitive, comme ça. C'est plus une respiration. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais il y a une couleur, un rythme. Mes spectacles sont beaucoup composés. Bien sûr, c'est des chorégraphies avec des chevaux, c'est des poèmes qu'on dit avec des chevaux. C'est les chevaux notre première source d'inspiration, faut jamais l'oublier quand même. Mais avant même la musique. Mais je les conçois beaucoup comme des partitions. Et par exemple, On achève bien les anges. Dès le début, je l'ai conçu comme une valse à 3 temps, quoi. J'ai dit, voilà, il y aura 3 temps qui vont revenir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec des 1, 2, 3, 1, 2, 3, des différents rythmes selon la longueur de chaque tableau. Et ces 3 temps, c'est le premier temps, les grands tableaux des anges sur des pièces d'orgue, le deuxième, les clowns musiciens qui jouent des airs un peu traditionnels, et le troisième, mes solos sur des musiques de Tom Waits. Et ça fait, voilà, ça fait comme ça un rythme. Et souvent, je résonne beaucoup en énergie, en rythme. Puisque voilà, j'alterne des moments un peu comme une composition musicale, en fait.
Et c'est quoi cette histoire avec Tom Waits qui est venu un peu polluer ce
parce que je n'ose pas trop en parler, parce que c'est une belle rencontre artistique, et c'est une rencontre humaine complètement ratée, quoi.
Vous l'avez rencontré?
J'avais juste oublié le fait qu'il était américain, quoi. C'est tout.
Non, mais vous l'avez rencontré, vous connaissez?
Non, jamais, justement, il a toujours fermé les portes, en donnant ses autorisations, puis après, ils se sont réveillés, tout ça pour une base d'histoire de pognon, mais qui ont, voilà.
Mais vous aviez les autorisations au départ?
Bien sûr, bah encore heureux, oui, sinon je ne l'aurais pas lancé Zingaro dans cette aventure.
Bon, comment il va le Caravage?
Il va bien, il est tous les soirs dans On achève bien les anges, voilà. Après avoir été célébré par Cavalier dans son film, il n'a pas trop pris la grosse tête, ça va.
Bon. Et vous avez des préférés, bien sûr. Vous n'allez pas me dire.
J'essaye de pas en avoir. C'est voilà. Un peu comme les enfants. Bah, c'est-à-dire que
ça voilà, quand t'as alors, Barthabas.
Ben non, mais tu peux avoir des plaisirs. Par exemple, j'ai un cheval qui s'appelle Horizon, qui a 28 ans maintenant. Donc, il est arrivé à l'âge de 5 ans à Zingaro. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans que tous les matins, on a des rencontres silencieuses comme ça. Donc, évidemment, ça crée des liens, quoi. C'est devenu presque la gériatrie. Maintenant, c'est un petit papy. Donc, je l'échauffe tout doucement le matin. Je suis obligé d'être très à l'écoute de lui. Et ça t'apprend beaucoup parce que travailler des chevaux, d'avoir un rapport comme ça si long avec un cheval, mais de travail quand même, quoi, c'est très intéressant parce que tu comprends à travers les chevaux des choses sur toi-même, évidemment, quoi. C'est-à-dire que tu es moins exigeant avec lui parce qu'il est plus âgé, donc tu es obligé d'avoir encore plus d'écoute, encore plus d'attention, quoi. Et donc ça t'apprend un peu à te comporter avec les humains aussi, quoi. Enfin, moi, les chevaux, évidemment, je vous le dis pas, m'ont appris à supporter les humains, évidemment.
Ça se joue encore jusqu'au 31 décembre, le dernier spectacle de Bartabas, avec en prime l'expo d'Emmanuel Michel et le livre. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Bartabas.
Merci à vous.
Les petits matins continuent dans un instant, Émilie Chaudet.
Et cet entretien de Toufik Hakem réalisé par Thomas Duterte peut se réécouter, se podcaster sur le site, notre site franceculture.fr, à la page des petits matins, tout comme les autres chroniques de cette première heure de radio. Tout de suite, sans plus tarder, on retrouve François Angelier.
Les émois, François Angelier.
Bonjour François.
Bonjour Émilie.
Vous nous parlez ce matin du dernier roman de Marcus Malt, Le
oui.
Garçon.
Le Garçon qui est paru chez Zulma. Alors Marcus Malt, on le connaît comme étant une des plus fines plumes, les plus acérées, les plus puissantes du roman noir français. C'est quelqu'un qui a publié au Fleuve Noir, à la Série Noire chez Zulma, qui excelle dans des univers justement très très noirs et très violents. Et là, surprise, il donne un roman important aux éditions Zulma, un roman qui est paru au mi-août, mais qu'il est important de remettre un petit peu sur le devant de la scène, puisque je pense qu'on n'en a pas assez parlé, parce que c'est un roman, à mon avis, important. C'est un des romans les plus forts de la rentrée. C'est un roman opulent de 500 pages, découpé en petits chapitres brefs, extrêmement incisifs, extrêmement violents. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, Le Garçon, c'est celui qui est au cœur de ce roman. C'est un peu Gaspar Hauser. C'est une créature qui vient de nulle part et qui rentre dans l'histoire et qui rentre dans le temps. Le garçon naît quelque part en Camargue, dans la cabane de sa mère, dans un endroit qui est totalement hors du temps, hors de la société, hors de l'histoire, un endroit quasiment légendaire, presque homérique, presque mythique. Et il grandit là avec cette mère qui est un peu sorcière, un peu voyante. Quand elle meurt, eh bien, le garçon quitte cet endroit protégé d'une certaine manière, bien que très pauvre, pour rentrer dans l'histoire. Et là, on va assister à véritablement ce passage du mythe à l'histoire avec les rencontres successives que va faire le garçon entre 1908 et 1938, parce que Marcus Malt a quand même daté son histoire. Et ces rencontres vont montrer à quel point ce garçon qui ne parle pas, qui est une espèce de géant candide, un bloc d'énergie, une espèce de pâte à modeler colossale, un bloc de force, eh bien, d'une certaine façon, va être un mur contre lequel l'histoire va renvoyer sa balle en permanence et qui va nous servir d'une certaine façon un peu à nous raconter l'histoire de ce début du XXe siècle par sa disponibilité et sa force. Alors, tout d'abord, il est accueilli par des paysans et les paysans lui apprennent d'abord qu'est-ce que c'est qu'une communauté, qu'est-ce que c'est que le travail, puisqu'il est costaud, on le fait bosser, donc il découvre la société et le travail. Ensuite, il les quitte, ces paysans, à l'occasion justement d'un drame, et il rencontre Brabec, l'ogre des Carpates. Alors, c'est un catcheur itinérant, une espèce d'Hercule qui va de ville en ville, qui affronte là, eh bien, le costaud du coin. Ensuite, il rencontrera l'amour, il découvrira ce qu'est l'érotisme et le corps avec une jeune bourgeoise belge qui s'appelle Emma. Et peu à peu, eh bien, on voit ce personnage comme ça aller de milieu en milieu, de ville en ville, et se constituer toujours en restant muet. Et après arrive 1914, arrive la Première Guerre mondiale, et là il rentrera, non pas dans le temps de l'histoire, mais dans la fournaise véritablement et la violence du XXe siècle. C'est un roman très très beau, c'est un très beau roman écrit dans une langue très opulente, très riche, très très travaillée, très ciselée, qui est vraiment, à mon avis, une des grandes surprises, une des belles surprises romanesques de cette rentrée.
J'ai également entendu dire qu'il faisait partie de la sélection du prix Veplaire et de la dernière du prix Fémina.
Mais on lui souhaite de l'avoir, parce que je crois que c'est un roman ambitieux, c'est un roman fort, et on sent d'ailleurs qu'il a été travaillé pendant, je pense, assez longtemps, en résidence. Je pense que c'est vraiment un roman qu'il ne faut pas perdre de vue, de même que son auteur.
Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup,
merci
François.
Émilie.
Suite des petits matins, avec dans un instant le journal d'Amélie Perrier, puis à 6h40, le journal des idées de Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie.
De quoi sera-t-il question aujourd'hui ?
Eh bien, de la colère exprimée par les policiers, un malaise profond que nous devons partager, nous, les démocrates.
À 6h45, il sera question de la bataille de Mossoul dans les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet. C'est avec ça. Effectivement Yuo Micheron qui sera là et on va parler du sort de l'État islamique et le sujet d'ailleurs sera poursuivi par Guillaume
Erner dans les matins que nous retrouverons à 6h57 pour son humeur du jour et donc des matins consacrés à la question de Daesh, peut-être la fin du commencement.
Chaque jour à midi, la grande table par Olivia Gesbert.
Nous, à la grande table.
Non, non, non. Nous, c'est la reine qui dit ça. Elle a ce nous de majesté.
Alors je le reçois, lui, Ken Loach, pour moi, Daniel Black, ou le parcours du combattant d'un ouvrier qui tente d'obtenir des aides sociales au cœur d'un système kafkaïen. Avec ce film social, Palme d'Or à Cannes, le cinéaste britannique prouve à 80 ans qu'il n'est pas encore prêt à poser sa caméra.
I think retirement is never a good choice.
Vraiment, c'est jamais un bon choix de s'arrêter. Hein.
La grande table, le magazine de la culture et des idées, aujourd'hui sur France Culture, dès midi. À écouter aussi sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h30. Le journal présenté par Amélie Perrier. Bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Calme et maîtrise. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se félicite de la première journée de démantèlement de la jungle de Calais. Plus de 2300 étrangers déjà évacués, emmenés en car dans 80 centres d'accueil partout en France. Et parmi les migrants pris en charge hier, 400 mineurs. Certains auront le droit de passer en Angleterre, notamment si leurs parents sont déjà de l'autre côté de la Manche. Mais hier, les autorités débordées par l'afflux ont dû renvoyer dans la jungle ceux qui se présentaient. Stu est bénévole à l'association Refugee Youth Service.
À cause du manque d'organisation des autorités, le processus a été très lent. Trop de migrants se sont agglutinés devant la gare de bus car ils leur ont tous dit de venir dès le matin et c'est devenu le chaos. Il y a eu des bousculades violentes, les enfants ne se sont pas sentis en sécurité, du coup ils sont revenus dans la jungle. Ils ont fait des allers-retours plusieurs fois. Bien entendu, ils étaient désabusés et en colère, ils étaient inquiets car ils ne savaient pas comment passer une nouvelle nuit au camp. La nourriture manque terriblement et les toilettes sont partiellement détruites. Ils sont encore plus vulnérables qu'ils ne l'étaient avant. Donc, on fait de notre mieux pour les rassurer, on leur dit de rester ensemble, entre amis, de rester en sécurité et d'aller au SAS tôt, très tôt ce matin, pour aller se faire enregistrer. Ils ont tous encore espoir de pouvoir aller en Angleterre, mais on leur a expliqué que ça ne serait certainement pas possible, que d'abord ils allaient rester en France quelques temps. Le gouvernement britannique ne permet pas à tous les mineurs qui ont le droit de rejoindre leur famille là-bas. C'est triste.
Voilà le témoignage de Stu de l'association Refugee Youth Service au micro de notre envoyé spécial à Calais, Adrien Taufolet. Et cette opération à Calais ne manque pas de susciter des réactions politiques. Pour Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire de droite, on ne démantèle rien du tout. On prend 11 000 malheureux là, on les répartit en France. On va leur donner des papiers, s'interroge-t-il. Je ne comprends pas la politique du gouvernement, a-t-il lancé sur France 5. La politique à gauche maintenant avec la sortie du bois de Manuel Valls. Si le président François Hollande ne se représentait pas, le chef du gouvernement pourrait apparaître comme un recours. Sur la forme, il soigne son image de présidentiable avec des voyages à l'étranger, au Canada, au Sénégal, en Afrique à la fin de la semaine. Et sur le fond, son discours évolue, Ludovic Piétenu.
S'il veut être le recours, il doit convaincre la gauche, pas l'aile droite, comme il en a l'habitude depuis 2 ans et demi à Matignon et même avant, mais son centre, le cœur du Parti Socialiste. Samedi à Tours, Manuel Valls acte un rapprochement très politique et s'affiche avec le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, devant 200 personnes, petite foule socialiste. Il abandonne son discours sur les deux gauches irréconciliables et il insiste « Je ne laisserai jamais tomber la gauche, j'ai toujours respecté ma famille politique, je ne l'ai jamais renié. » Et il a, semble-t-il, besoin de le prouver plus aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Lundi dernier, dans sa ville d'Évry, il tempère tout à coup sa vision de la laïcité. Elle n'est plus ouverte, offensive ou revancharde, elle est bienveillante à l'égard des musulmans. L'islam est une part indissociable de nous-mêmes, de notre culture et désormais de nos racines, dit Manuel Valls. Hier soir, nouvel amendement à ses dires d'avant. Quand il y a un an, dans les semaines qui ont suivi les attentats du 13 novembre, il affirme qu'expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. La phrase choque, mais il la répète, fait fi des tribunes d'universitaires, il ne craint pas la polémique, la transgression comme la triangulation sont ses armes. S'il avait depuis déjà adouci ses propos, hier soir il est allé un peu plus loin sur la radicalisation et ses causes. Nous avons besoin, dit-il, du travail des chercheurs, des universitaires, des spécialistes pour analyser, appréhender ce phénomène dans sa globalité. Peut-être que pour Manuel Valls, l'hypothèse d'aller au combat comme candidat est une hypothèse encore basse, mais peu importe, si Hollande y va, ce profil ressemble centré sera bon, pense-t-il, pour mieux défendre le bilan.
Et l'exécutif regardera avec attention ce soir les chiffres du chômage. Publication à 18h par Pôle emploi. La baisse du nombre d'inscrits est la condition posée par François Hollande à une nouvelle candidature. En attendant, les députés votent aujourd'hui à l'Assemblée le dernier budget du quinquennat. En tout cas, la première partie, celle sur les recettes de l'État. Le gouvernement se veut optimiste et pense passer sous la barre des 3% de déficit imposé par Bruxelles l'an prochain. 2,7% table Bercy, c'est très ambitieux. Trop ambitieux selon Gilles Carrez, le député LR, président de la commission des finances de l'Assemblée.
L'objectif de 2,7%, passer d'un déficit de 3,3% en 2016 à 2,7% en 2017, va être très difficile. Alors le gouvernement a essayé de faire deux choses. D'une part, de gonfler les recettes sur 2017, en particulier en recourant à différents artifices d'anticipation de recettes exceptionnelles. Donc, il gonfle les recettes sur 2017. Et par contre, il reporte beaucoup de dépenses au-delà de 2017. Ça permet optiquement d'avoir un déficit moins important. Mais je pense que dans l'exécution, dans la réalité, malgré tout, il y aura beaucoup de mal à atteindre les 2,7%. Ne serait-ce que parce que la croissance, qui est prévue à 1,5%, sera probablement en réalité inférieure. D'ores et déjà, on sait que le budget 2018 va être très, très difficile à équilibrer. Il faudra trouver des économies supplémentaires.
Le député de droite Gilles Carrez, il répondait à Maxime Fayolle.
Il est 6h35 sur France Culture, la suite du journal avec vous Amélie Perrier. L'Europe et le Canada veulent encore croire que le CETA, c'est possible.
Oui, le CETA, c'est l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada. Après 7 ans de négociations, il devait être signé cette semaine. C'était sans compter l'irréductible Wallonie. Le Parlement local de la région continue de refuser le texte, bloquant la signature de la Belgique. Mais pour l'instant, l'Europe et le Canada maintiennent le sommet prévu jeudi à Bruxelles pour la signature. À l'étranger encore, une terrible attaque au Pakistan. 58 personnes sont mortes dans l'assaut d'une école de police près de Quetta. C'est dans la région du Baloutchistan, une province très pauvre et très instable dans le sud-ouest du pays, en proie à des conflits intercommunautaires, des violences entre factions islamistes et à une insurrection séparatiste baloutche. L'enjeu est environnemental, mais hautement diplomatique aussi. La commission baleinière internationale se tient depuis hier en Slovénie. 88 pays discutent de la protection des baleines et de la mise en place d'un sanctuaire dans l'Atlantique Sud. Mais depuis plus de 15 ans, le Japon fait barrage. Sonia Van Tichelen dirige le IFAO, le Fonds international pour la protection des animaux.
Il y a de plus en plus des menaces pour les cétacés, hein. Les problèmes de pêche, de collision avec des bateaux, parce qu'il y a quand même pas mal de trafic. Le grand problème de pollution, aussi pollution acoustique, la chasse commerciale sera interdite, mais ça n'empêche pas le Japon de continuer, comme ils ont fait avant dans d'autres sanctuaires, de chasser les baleines pour, soi-disant, des raisons scientifiques.
Et qui sont les pays qui soutiennent la création du sanctuaire ?
La proposition vient du Brésil, du Paraguay, le Gabon et l'Afrique du Sud. Ce sont aussi, si vous voulez, les frontières de cette sanctuaire, mais c'est vrai que pas mal d'autres pays soutiennent déjà, comme l'Union européenne, heureusement. C'est aussi le premier sanctuaire avec un plan de gestion très compréhensif, c'est-à-dire qu'il y aura une meilleure coopération entre tous les pays, puisque comme vous le savez, les baleines sont des animaux migratoires. Donc une coopération internationale est essentielle pour mieux protéger ces animaux.
Sonia Van Tichelen du Fonds international pour la protection des animaux, elle répondait à Valentine Letesse. Le temps de ce mardi, le soleil revient timidement par l'ouest, la pluie persiste sur le quart sud-est. Les minimales vont de 6 à 11 degrés au petit matin. Cet après-midi, on attend 13 à Strasbourg, 15 à Paris, 18 à Lyon, 20 à Bordeaux et 21 à Montpellier. 6h38 sur France Culture, prochain journal à 7h avec Sophie Delpont. Mais d'ici là, vos petits matins s'occupent de votre réveil. C'est avec Émilie Chaudet. Émilie, c'est maintenant votre revue de presse.
Merci Amélie. On commence ce tour d'horizon de la presse par le refus du CETA par la Wallonie. Libération en fait sa une à la façon d'un début d'Astérix. Oui, vive la Wallonix, titre le journal, alors que selon le quotidien, toute l'Europe est prête à le signer, ce traité de libre-échange. Une région belge refuse la Pax Canada. À l'intérieur du journal, le ministre-président wallon Paul Magnette précise que ce refus n'a pas pour vocation de bloquer l'Union. Il s'agit juste, selon lui, d'exercer son pouvoir démocratique par le refus de dispositions qui, je le cite, posent problème. On apprend aussi dans les pages du journal que si la Wallonie est la seule région européenne à avoir fait entendre son refus sur la scène politique, ce traité ne fait évidemment pas l'unanimité au sein, par exemple, de la société civile espagnole ou danoise. L'édito de La Croix revient aussi sur ce refus de la Wallonie. La tentation est forte, écrit Guillaume Goubert, de dire aux 3,6 millions de Wallons, comment osez-vous vous mettre en travers d'un traité qui concerne 500 millions de citoyens de l'Union européenne. L'éditorialiste qui note cependant que les questions soulevées par la Wallonie aujourd'hui ne sont pas anodines, notamment concernant la capacité des États à résister à la puissance des entreprises multinationales. La Croix qui consacre le reste de sa une à l'évacuation en cours du camp de Calais, évacuation sur fond d'incertitude, c'est rien de le dire. Le plus dur reste à venir, note le journal qui cite les propos d'un migrant de Calais. Je sais qu'ils ont déjà détruit des camps, mais il y en aura d'autres dans un autre endroit. Rien ne nous arrêtera. Pareil en une du Parisien aujourd'hui en France, au cœur de l'évacuation de la jungle, si l'on en croit son titre, où les mots des personnes interrogées traduisent là encore un peu plus l'incertitude et l'inquiétude, le désarroi même de cet après-Calais. Une autre bataille se prépare pour eux après la guerre laissée dans leur pays. La guerre de Mossoul fait la une du Figaro aujourd'hui avec une coalition qui se heurte à la résistance de Daesh, une offensive freinée par les attentats suicides djihadistes. La bataille passera des territoires à l'idéologie, note le journal. Et pour finir, une autre bataille bien loin des terrains minés d'Irak ou de Syrie, bien plus proche de nous, fait la une de l'humanité, c'est celle d'Ayel. Une caissière de 33 ans licenciée après une fausse couche au travail. Syndicats, notamment la CGT et quelques dizaines de personnalités issues d'associations féministes ont lancé et signé une pétition pour la réintégration immédiate de la caissière. Des batailles, des combats se livrent aussi sur le champ des idées. Jacques Munier se tient en position d'attaque. Il est 6h41 sur France Culture.
Le journal des idées. Jacques Munier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Donc la colère exprimée par les policiers est révélatrice d'un profond malaise, vous nous dites aujourd'hui.
Oui, dans Le Monde, le sociologue René Lévy revient sur les motifs invoqués, la hiérarchie, la justice pénale, une violence accrue et même la représentativité des syndicats. Il estime que c'est l'incapacité à remettre en cause l'organisation actuelle de la police en France et la manière de faire la police qui explique la recherche d'un bouc émissaire. Les policiers souhaitent se recentrer sur ce qu'ils considèrent leur cœur de mission. Mais celui-ci ne se résume pas à la chasse aux délinquants. Ce n'est pas par hasard que les brigades anticriminalité sont perçues comme l'élite de la profession et la réception des plaintes des citoyens comme un placard. L'échec de la police de proximité s'explique notamment par la résistance des policiers eux-mêmes qui n'y voyaient que du social, pas de la police. Rappelle ce chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Or, une grande partie de ces missions montrait les policiers sous un jour non répressif et contribuaient à améliorer leur image dans la population. Les contrôles d'identité notoirement discriminatoires sont devenus une spécificité française et dans les quartiers populaires une technique de harcèlement puisque les policiers contrôlent des gens dont ils connaissent l'identité. Il s'agit souvent de justifier une palpation et une fouille dont le caractère humiliant et récurrent engendre un sentiment de persécution. C'est pour cette raison que dans les fractions de la population qui ont le plus de contact avec la police, les jeunes, les minorités visibles, la confiance est moindre et la légitimité de l'institution remise en cause. On entre ainsi dans une spirale de la confrontation, conclut René Lévy. D'ailleurs, les poursuites pour outrage et rébellion ont été multipliées par 5 depuis les années 1990, ce qui, selon lui, procède principalement d'un durcissement délibéré de la réaction policière aux incidents.
Et la question s'est également posée en matière de maintien de l'ordre, notamment lors des manifestations contre la loi travail, Jacques.
Oui, on l'a vu, la stratégie a pris un tour alors beaucoup plus offensif avec l'usage croissant d'armes dites à létalité réduite comme les lanceurs de balles de défense ou les grenades de désencerclement. La dernière livraison de la revue Vacarme propose un dossier violence policière résistance minoritaire conçu dans la foulée du printemps dernier. S'il faut bien admettre que les forces de l'ordre ont été mises à rude épreuve depuis un an et demi, leurs méthodes d'intervention sont apparues alors hasardeuses, petites unités laissées à elles-mêmes, ordres manifestement délivrés en vue d'accroître la tension
tension parmi les manifestants ou de laisser dégradation et destruction se multiplier, usage disproportionné de la force. Fabien Jobard, chercheur au CNRS et co-auteur d'une sociologie de la police, analyse également les conséquences d'une militarisation de la police urbaine avec l'encasernement des unités dédiées au maintien de l'ordre qui les éloigne du terrain local et les livre aux forces d'une hiérarchie centrale. Il a observé les effets délétères de la technique de la NAS mise en œuvre à Paris et consistant à maintenir en rétention, à ciel ouvert, sur la place publique, des manifestants dont les forces de l'ordre sont censées en principe assurer la sécurité. Un tel arraisonnement de l'espace public ne peut qu'engendrer, ou en tout cas stimuler, des logiques de guérilla urbaine. Et que dire des 26h30 de folie, l'effarant témoignage d'Éric Marty, un militant non violent arrêté aux abords de la NAS géante autour du bassin de l'Arsenal lors de la manif en rond du 23 juin, brutalement interpellé pour la détection dans son sac à dos de lunettes de piscine destinées à protéger ses yeux des gaz lacrymogènes. Il finira en garde à vue, finalement déféré pour avoir résisté avec violence à monsieur Intel, dépositaire de l'autorité publique, devant un substitut du procureur qui lui déclare sans embâche qu'il se fiche de sa version des faits. 2 mois et demi après les faits, le tribunal a conclu à la nullité de la procédure. Après combien de temps, d'énergie, d'argent public gaspillé?
Et un petit retour sur l'histoire pour finir, Jacques, avec la revue Crime, Histoire et Société qui évoque la police sous la Révolution.
Oui, Vincent Denis rappelle que contrairement à leurs prédécesseurs, les commissaires de police sont élus alors par les citoyens et choisis par eux. L'un des objectifs du législateur étant de construire une police proche des gens et de confier les pouvoirs de police aux nouvelles municipalités. La nature élective du mandat pouvait nuire à leur autorité devant un personnage important, par exemple. Ou bien, autre exemple de citoyens à l'occasion récalcitrant, les prostituées qui n'hésitaient pas à exprimer leur mépris en exposant leur postérieur pour indiquer où elles se mettaient le procès verbal.
Merci Jacques Munier. Vous regardiez François, je ne sais pas s'il y a un message caché dans ce que vous dites, dans vos derniers mots. On le saura peut-être un autre jour. Il est 6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux. Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Émilie.
Aujourd'hui, les enjeux internationaux s'intéressent au sort de l'État islamique.
Voilà, par-delà la bataille de Mossoul en Irak et de Raqqa, bientôt peut-être en Syrie. Notre invité Hugo Michereau, bonjour.
Bonjour Thierry.
Alors, vous êtes docteur en chaire d'excellence Moyen-Orient-Méditerranée à l'École Normale Supérieure. La prise donc de Mossoul, celle de Raqqa, lorsqu'elles surviendront, ne marqueront pas la fin de l'État islamique. De toute façon, la solution n'est pas militaire. La victoire sera d'abord et in fine politique, ce qui, je ne sais pas si vous serez d'accord, ce qui nécessitera des années, car on ne bombarde pas les idées. C'est une expression d'ailleurs bien connue. Le radicalisme islamique ne se résume pas à la destruction du pseudo-califat décrété en 2014. Alors, et en plus, la coalition est très hétéroclite. On va en parler. Alors, déjà sur le terrain, juste un point de situation.
Eh bien, ce qu'il faut tout d'abord souligner, c'est l'extrême hétérogénéité des forces en présence au bord de Mossoul. La bataille de Mossoul avance, elle avance vite d'ailleurs selon les responsables irakiens, mais les forces sont très hétéroclites puisqu'on retrouve sur le terrain à la fois l'armée régulière irakienne, d'autre part les Kurdes irakiens, également des forces chiites soutenues par l'Iran, le tout parrainé par la coalition internationale et dirigée par les États-Unis qui ont surtout le contrôle des airs au-dessus de Mossoul. Donc ce sont des forces qui pour l'instant font front commun contre les positions de l'État islamique au sein de Mossoul, mais qui demain pourront tout à fait se disputer sur l'avenir de la ville et l'avenir politique du pays, de l'Irak, évidemment.
Il est symbolique qu'il y ait, je crois, c'est à Paris, une réunion aujourd'hui, le ministre de la Défense d'une partie de la coalition, c'est ça?
Oui, c'est une réunion qui réunit 30 ministres des Défenses, dont 10 sont engagés dans les opérations à l'heure actuelle pour la libération de Mossoul, qui montre aussi l'intérêt politique pour la France hein, de participer et de sembler en partie, en tout cas, aux commandes de la libération de Mossoul, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité, puisque vous savez que la France s'occupe de seulement 8% des frappes sur Mossoul, sur la capitale sunnite hein, du nord de l'Irak, comme il faut le rappeler, puisque c'est l'une des dimensions importantes de cette ville.
Alors quels sont les principaux clivages de cette coalition? Alors, on retrouve dedans des pays qui avaient été accusés autrefois ou naguère d'ailleurs même d'avoir aidé l'État islamique. On pense tout de suite souvent citer l'Arabie Saoudite, le Qatar. Il y a des belligérants effectivement qui ont des alliances à front renversé. Il y a la question du clivage là aussi sunnite-chiite, puisque vous avez parlé des Kurdes qui ne sont pas arabes mais qui sont sunnites et l'essentiel de la population irakienne est chiite, environ 65%. La question kurde qui est d'une rare complexité. Le jeu propre de la Turquie. Il faut rappeler toujours que pendant un certain temps, la Turquie avait émis des revendications autrefois sur Mossoul.
Oui, c'est une...
Ça remonte au lendemain de l'Empire ottoman. La chute de l'Empire ottoman.
La Turquie est absolument centrale dans cette affaire, puisqu'en fait, cette bataille de Mossoul vient conclure une période qui s'est ouverte en janvier 2015 avec la bataille de Kobané, qui a été la première défaite symbolique de l'État islamique sur le terrain et qui a entraîné à partir de là un repli en Syrie et en Irak des positions de l'État islamique. Mais ce repli des positions donc de Daesh s'est accéléré depuis l'intervention turque, l'opération donc bouclier de l'Euphrate qui a été lancée au début de l'été de cette année. Donc c'est véritablement l'intervention turque, le fait que les Turcs décident de venir sur le terrain syrien qui a précipité la chute de le repli des positions de l'État islamique et précipité le siège de Mossoul que nous vivons à l'heure actuelle. Donc vous avez raison de souligner l'importance. Ceci étant, paradoxalement, l'intervention turque rajoute à la complexité du terrain.
Oui, d'autant que la Turquie avait été accusée, à tort ou à raison, mais avec de forts soupçons, d'avoir laissé passer l'État islamique de Turquie en Syrie lorsqu'il est allé s'installer en Syrie, un certain nombre de combattants.
Oui, et d'ailleurs l'intervention...
Avec des cohortes de 4x4, comme on dit, avec des armées.
C'est-à-dire qu'en fait, l'expansion de l'État islamique a été rendue possible notamment par l'afflux de combattants qui sont passés par la frontière turco-syrienne et que, paradoxalement, c'est l'intervention turque au nom de la lutte contre l'État islamique, même si on sait qu'en réalité c'était pour couper les lignes de conjonction entre les différents partis kurdes qui motivaient véritablement cette intervention, est venue produire des effets paradoxaux. Je crois que c'est très important de rappeler cette complexité du terrain. On a...
On a l'impression que chacun a son agenda, comme on dit en américain, et que au fond c'est un billard. Je ne sais pas si on dit à deux bandes ou trois bandes, mais je veux dire qu'on n'en est qu'au début de la complexité.
Oui, tout à fait. D'autant plus que, en fait, pour l'instant, l'ensemble des acteurs qui sont réunis dans la lutte contre l'État islamique n'ont pas, en réalité, pour objectif numéro un de lutter contre l'État islamique. Si vous voulez, si on prend les priorités kurdes, turques, par exemple, typiquement,
vous avez fait un lapsus tout à fait. non, mais c'est un très bon lapsus.
Non, mais ce qu'il faudrait dire, les forces kurdes, puisque vous savez qu'il y en a plusieurs sur le terrain. Non, il y a d'un côté, lutter contre les Kurdes, du côté turc, deux, lutter contre Bachar el-Assad, et trois, lutter contre l'État islamique. Pour l'instant, ils ont fait remonter la priorité 3 en numéro 1, mais demain, la hiérarchie se réimposera à nouveau. Et ça, c'est seulement pour les Turcs. Vous voyez, donc, on est dans ce système où on a un front en Irak, à l'heure actuelle, qui est à Mossoul, qui est capitale, qui est symbolique, et qui va être une lourde conséquence pour la suite, mais on a aussi un front en Syrie où on a une intervention sol turque, on a une intervention aérienne russe, on a les forces de l'armée syrienne, donc du régime de Bachar el-Assad, on a différentes forces kurdes soutenues par l'Occident, et puis on a, il faut le rappeler quand même, des centaines de Français, en ce qui nous concerne, des centaines de Français qui sont encore dans les rangs de l'État islamique ou prisonniers dans les différentes forces d'intervention.
Juste d'un mot, qu'est devenu justement Al-Nusra, c'est-à-dire qui a été rebaptisé sous une autre étiquette, c'est-à-dire au fond Al-Qaïda en Syrie, pour simplifier.
Alors, Jabhat al-Nusra que vous évoquez, qui est en fait donc ce qui signifie le front de la victoire, était le groupe affilié à Al-Qaïda, le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda dans le nord de la Syrie, qui maintenant a évolué, a rompu officiellement ses liens, c'est ce qui, en tout cas ce qu'ils prétendent, avec Al-Qaïda pour se renommer Jabhat Fatah Sham, donc le front de la libération du Levant, et ce groupe a pour ambition, si vous voulez, de recréer un djihadistan, si vous voulez, dans le nord de la Syrie, donc d'où ils pourront ensuite prétendre si vous voulez, une véritable emprise, avoir une véritable emprise territoriale. Et c'est quelque chose de très très important, puisqu'au moment où s'effondre, si vous voulez, Daesh en Syrie, en Irak, on a un autre groupe.
Parce que Al-Nusra et Al-Qaïda, on va dire, de l'époque, et donc l'État islamique, se sont entretués pendant des années.
Alors, ça ne simplifie rien, ce qui montre aussi à quel point cette guerre est un millefeuille, si vous voulez, de situation complexe. À l'origine, le front al-Nosra est une émanation de ce qu'était l'État islamique en Irak. Seulement, l'État islamique en Syrie, en Irak, donc l'actuel État islamique, a refusé à un moment donné de laisser seul son émanation en Syrie, donc le front al-Nosra, et a décidé d'intervenir à son tour dans la crise politique syrienne, ce qui a donné l'actuel État islamique. Mais les deux coexistent en Syrie à l'heure actuelle. Et c'est ça le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'on a des rivalités sur tous les fronts. Ce qu'il convient de comprendre de façon extrêmement simple à l'heure actuelle, c'est que à l'heure où le califat de Daesh est en reflux, est en train de diminuer, eh bien le front al-Nosra, donc nouveau front de la libération du Levant, fonde à nouveau un petit émir de facto dans le nord de la Syrie, qui sera, si vous voulez, demain le successeur de Daesh. Et cette lutte idéologique au sein des mouvements djihadistes se retrouve en France, où on trouve Al-Qaïda qui a à nouveau le vent en poupe, alors que l'État islamique, du fait des défaites militaires en Syrie et en Irak, recule.
Voilà, on aura le temps d'y revenir. Et d'ailleurs, Guillaume Erner, dans un instant, ou plutôt tout à l'heure, va revenir sur cette question de l'Irak et de la Syrie.
À 7h40, Thierry.
Voilà. Et puis on se retrouve demain, Émilie.
Avec l'avenir, état des lieux et avenir de l'autorité palestinienne, Thierry.
Voilà, d'ailleurs, on reste dans la région et on va marquer le 50e anniversaire l'année prochaine de l'occupation des territoires occupés par Israël. Et on va voir l'autorité palestinienne et un peu plus tard, dans quelques semaines, où en est Hamas, le Hamas à Gaza.
Et on rappelle que les enjeux internationaux peuvent se réécouter, se podcaster sur
franceculture.fr.
Franceculture.fr à la page des petits matins ou à la vôtre, Thierry. 6h55 sur France Culture. Par Arcade Fire sur leur album, je vais y arriver, sorti en 2010, The Suburbs, chanson sur l'attente, chanson sur les nouvelles que l'on attend de l'autre, sur les missives, sur les courriers lointains qui mettent du temps à arriver. Et aujourd'hui, il est question de cet article, enquête de longue durée du New York Times, signé Jody Cantor et Catherine Einhorn, enquête qui va à la rencontre de ces familles syriennes éclatées à travers le monde. Il est question ici de l'histoire de la famille Al-Hajj, qui a quitté la Syrie, donc, et dont une partie se trouve au Liban. Deux frères et leurs familles respectives qui se sont réfugiés donc à Beyrouth jusqu'à ce que les autorités canadiennes appellent une partie de la famille et leur a dit qu'ils ont été choisis pour venir vivre à Toronto. Il y est question de la séparation difficile mais d'un départ que l'on ne peut pas refuser ni empêcher. Il y est question de la culpabilité d'avoir laissé les siens derrière, des SMS permanents pour rester en lien et malgré tout du désir de se fonder un avenir et une nouvelle vie dans son pays d'accueil. Il faudrait presque une émission pour résumer l'entièreté de cet article, l'intégralité de cet article fleuve du New York Times que vous retrouverez dans son intégralité donc sur notre site franceculture.fr à la page des petits matins. Il est grand temps de vous retrouver, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour François, bonjour à tous.
Tout de suite, c'est votre humeur du jour, 6h57 sur France Culture.
L'humeur du matin, Guillaume Erner.
On peut dire que tout a été dit sur la jungle, ou presque, Guillaume.
Effectivement, au sujet de la jungle de Calais, on a parlé de tout, sauf peut-être du mot jungle. Et pourtant, le choix de ce mot est peut-être ce qu'il y a de plus édifiant dans cette histoire. Car qu'est-ce qu'une jungle ? Alors, si vous regardez dans le dictionnaire, Émilie, c'est une forêt tropicale peuplée d'animaux sauvages. D'ailleurs, Albert Londres, notre saint patron, le saint patron des journalistes, a fait un reportage dans la jungle et il a parlé de la goinfrerie des tapirs et des pitreries des singes. Mais à Calais, où sont les tapirs et les singes ? En appelant ce campement de fortune une jungle, on a donc animalisé ses occupants, accréditant l'idée qu'ils n'avaient pas à vivre comme des hommes puisqu'ils n'étaient pas complètement humains. Et si l'on avait appelé ce lieu par son nom, autrement dit bidonville, le bidonville de Calais, on aurait souligné l'incapacité de la France à proposer un hébergement digne à cette population en détresse. En somme, la principale politique appliquée à la question de ces migrants depuis des mois a consisté à baptiser leur lieu de résistance une jungle plutôt qu'un bidonville, tandis qu'on les appelait des migrants d'ailleurs et non des réfugiés, un mot qui là encore signifiait beaucoup. Il faudrait comprendre comment ces deux termes fautifs se sont imposés, tant et si bien qu'aujourd'hui, appeler la jungle autrement que la jungle, c'est courir le risque de ne pas être compris. Voilà pourquoi on est bien obligé de reprendre à son compte ces mots destinés à masquer d'autres mots, les mots et malheurs du monde. Comme le disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter aux malheurs du monde, ça on le sait maintenant, mais en matière de jungle, mal nommer les malheurs du monde, c'est encore plus ajouter au malheur du monde.
Nous allons donc continuer à appeler ces espaces des bidonvilles ou des camps donc par leur nom. Merci Guillaume Herner, on vous retrouve dans un instant. Le temps de remercier cette équipe, cette fabuleuse équipe des Petits Matins, François Angelier, Jacques Munier, Thierry Garcin, Toufik Hakim, Camille Portis-Guerin à la réalisation, accompagné ce matin à la prise de son de Nicolas Slimani.